Le monde est pour les vivants. Qui sont-ils à cette heure? Nous défiâmes les ombres d'effleurer la tiède blancheur. Elle fut le vent quand le vent me barrait la route. Vivante à midi, j'expirai sur son cœur. Celui qui de la chair s'élève dans l'esprit meurt. Le monde déborde le monde, et la lumière est toute. Théodore Roesque. Citations historiques d'Arès Balade. C'est à peine si la volonté consciente de Teg intervint dans sa transformation en typhon. Il avait enfin reconnu la nature de la menace que représentaient les honorés matriarches. Cette reconnaissance prenait sa place parmi les impulsions confuses et impératives dont le bombardaient ses nouvelles perceptions de Mentat, alignées sur la vitesse accrue de ses réactions. Une menace monstrueuse appelait des contre-mesures monstrueuses. Le sang l'éclaboussait de partout, tandis qu'il taillait son chemin d'un étage à l'autre du grand immeuble, massacrant tout le monde sur son passage. Comme il l'avait appris de ses maîtres Bene Gesserit, le grand problème dans l'univers humain résidait dans la manière dont s'effectuait la procréation. Il entendait la voix de son premier professeur tandis qu'il poursuivait son œuvre de destruction à travers l'immeuble. « Tu peux appeler ça simplement sexualité, mais nous préférons employer le terme plus fondamental de procréation. C'est un concept à multiples facettes et ramifications, commandant une énergie apparemment illimitée. Le sentiment qu'on appelle « amour » n'en est qu'un tout petit aspect. » Teg broya la gorge d'un homme qui se tenait rigide en travers de son chemin et trouva finalement la salle de surveillance qui commandait les défenses de l'immeuble. Il n'y avait qu'un seul homme à l'intérieur, assis devant une console, l'index de sa main droite touchant presque le bouton rouge sur lequel il allait appuyer. Il le décapita presque du tranchant de la main gauche. Le corps bascula en arrière au ralenti, une gerbe de sang jaillissant de son cou béant. Les sœurs ont raison de les appeler des catins. On pouvait mener l'humanité à peu près n'importe où en manipulant les énormes énergies de la procréation. On pouvait inciter les humains à accomplir des actions qu'ils n'auraient jamais cru possible d'accomplir. Un de ses professeurs l'avait énoncé clairement. « Toute cette énergie doit avoir un exutoire. Enfermée dans une bouteille, elle devient monstrueusement dangereuse. Déviée, elle balaie tout sur son passage. C'est le grand secret de toutes les religions. » Teg eut conscience de laisser plus de 50 cadavres derrière lui en quittant l'immeuble. La dernière victime fut un militaire en tenue de camouflage qui se tenait devant l'entrée, apparemment sur le point de pénétrer dans l'immeuble. Tout en courant parmi les piétons et les véhicules immobiles pour lui, Teg eut le temps de réfléchir, au rythme effréné de ses pensées, à ce qu'il avait laissé derrière lui. Était-ce une consolation, se demandait-il, si la dernière expression vivante de la vieille honorée matriarche avait été une expression de réelle surprise? Pouvait-il se féliciter que Mutsafar ne revoie plus jamais sa maison de buissons charpentes? La nécessité de ce qu'il venait d'accomplir en l'espace de quelques battements de cœur apparaissait cependant très clairement à quelqu'un que le Bene Gesserit avait formé. Il existait dans le vieil empire un grand nombre de planètes paradis. Il en existait probablement encore davantage chez les peuples de la dispersion. Les humains ne semblaient jamais se lasser de tenter ce genre d'expérience stupide. Sur ces planètes, le farniente était surtout la règle. Les malins avaient vite fait de dire que c'était dû à l'effet lénifiant du climat, mais c'était trop facile. La vraie raison, ils le savaient, résidait dans le fait que les énergies sexuelles circulaient en toute liberté dans ces endroits, que les missionnaires du dieu fractionné ou de toute autre dénomination s'introduisent dans l'un de ces paradis, et la violence se déchaînerait automatiquement. Nous autres, au Bene Gesserit, nous sommes bien placés pour le savoir, avait dit l'un des professeurs de Teg. Il nous est arrivé plus d'une fois de mettre feu à l'un de ces barils de poudre avec notre missionaria protectiva. Teg ne cessa de courir que lorsqu'il déboucha dans une ruelle à plus de 5 kilomètres de l'abattoir qui avait servi de quartier général à la vieille honorée matriarche. Il savait que très peu de temps s'était écoulé, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus important qui exigeait toute son attention. Il n'avait pas tué tous les occupants de l'immeuble. Les survivants savaient maintenant de quoi il était capable. Ils l'avaient vu massacrer les honorés matriarches. Ils avaient vu Mutsafar tomber mort sous ses mains. La montagne de cadavres et les enregistrements repassés au ralenti parleraient d'eux-mêmes. Teg s'adossa à un mur de la venelle. La paume de sa main gauche était tout écorchée. Il se laissa redescendre à une cadence normale en regardant le sang couler de sa blessure. Sa couleur était presque noire. Plus riche en oxygène? Il haletait, mais peut-être pas autant que les efforts qu'il venait de fournir auraient dû l'exiger. Que m'arrive-t-il? C'était quelque chose qui lui venait de son ascendance atréide, il en avait la certitude. La situation de crise l'avait fait basculer dans un autre registre de possibilités humaines, une autre dimension. Quelle que fût la nature de la transformation, elle s'était opérée en profondeur. Son horizon s'était étendu à de nouvelles nécessités. Et il était jalonné des statues immobiles de ceux qu'il avait dépassés dans la rue pour venir jusqu'ici. Vais-je les considérer un jour, moi aussi, comme de la racaille? Cela n'arriverait que s'il le voulait bien, il en était conscient. Mais la tentation était là, et il se laissa aller à un bref instant de commisération à l'égard des honorés matriarches. C'était la grande tentation qui les avait fait basculer dans leur propre fange. Que faire maintenant? La voie s'ouvrait toute grande devant lui. Il y avait un homme ici, à Issaï, un homme qui connaissait certainement tous ceux dont Teg avait besoin. Il regarda autour de lui dans la venelle. Oui, cet homme n'était pas loin. Des effluves de fleurs et d'herbes parvinrent à ses narines d'un endroit situé un peu plus loin devant lui. Il se dirigea par là, conscient d'être guidé exactement vers ce qu'il cherchait et de n'avoir à redouter pour le moment aucune agression. C'était un havre de paix temporaire. Il ne mit pas longtemps pour arriver à la source des effluves. C'était un porche en retrait surmonté d'une marquise bleue où l'on pouvait lire ces deux mots en galaque moderne « Service personnalisé ». Teg entra et comprit immédiatement ce qu'il venait de dénicher. Il y en avait dans de nombreux recoins du vieil empire. Des établissements où l'on servait à manger comme dans l'ancien temps, les automates et les robots étant bannis des cuisines comme de la salle où étaient servis les clients. La plupart étaient des endroits à la mode. Les gens parlaient à leurs amis comme d'une découverte qu'il convenait de ne pas ébruiter. Tu comprends, si ça se savait, on ne pourrait plus y trouver une table au bout de quelques jours. L'idée avait toujours amusé Teg. Chacun s'empressait de donner l'adresse à tout le monde sous le couvert de protéger un secret. Des odeurs alléchantes émanaient des cuisines au fond de la salle. Un serveur passa avec un plateau chargé de plats aux fumées prometteurs. Une jeune femme vêtue d'une courte robe noire et d'un tablier blanc vint à la rencontre de Teg. « Par ici, monsieur. Il y a une table libre. » Elle lui présenta une chaise, le dos au mur, où il prit place tandis qu'elle posait devant lui une double feuille de papier grossier à bon marché. « Excusez-nous, nos menus sont imprimés, » dit-elle. « J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. Quelqu'un va s'occuper de vous dans un instant. » Il la regarda s'éloigner. Le serveur qu'il avait vu passer avec les plats la croisa. Il s'en retournait à la cuisine avec son plateau vide. Teg était arrivé jusqu'ici comme s'il avait suivi des rails. Et l'homme dont il avait besoin était là, assis à une table voisine. Le serveur s'était arrêté pour parler à cet homme qui détenait les clés, Teg le savait, des prochains événements. Ils étaient tous les deux en train de rire. Teg balaya du regard le reste de la salle. Trois autres tables seulement étaient occupées. Une femme d'un certain âge était attablée dans le coin opposé à celui de Teg. Elle grignotait une sorte de pâtisserie glacée. Elle portait ce qui devait être le dernier cri de la mode actuelle. Une robe rouge très courte, très collante et très décolletée sur le devant, avec des chaussures assorties. À une autre table, sur la droite, dînait un jeune couple. Ils n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre. Près de la porte, un vieux monsieur distingué, vêtu d'une tunique marron à l'ancienne, étroitement ajustée, mangeait du bout des doigts un plat à base de légumes verts. Il n'avait d'yeux que pour son assiette. L'homme à qui le serveur était en train de parler éclata d'un grand rire sonore. Teg posa son regard sur la nuque de celui qui servait. Des touffes de cheveux blonds y faisaient saillie comme des paquets d'herbes mortes. Sous les cheveux rugueux, le col était râpé. Teg regarda plus bas. Les chaussures étaient usées aux talons. La lisière de la veste noire avait été reprisée, par souci d'économie, ou pour obéir à quelque autre sorte de contrainte. Quoi qu'il en soit, les odeurs qui venaient de la cuisine ne suggéraient aucune pingrerie. La vaisselle était propre et étincelante, pas la moindre ébréchure. Mais la nappe à rayures rouges et blanches qui recouvrait la table était reprisée en plusieurs endroits d'une manière qui respectait soigneusement le tissu original. À nouveau, Teg concentra son attention sur les autres clients. Ils ne paraissaient pas trop à plaindre. Aucun d'eux n'était du genre affamé qui vient se nourrir une fois par jour dans une gargote à bon marché. Teg comprit alors de quoi il était question. Non seulement c'était la bonne adresse à la mode, mais on avait fait sciemment en sorte que les lieux aient exactement l'apparence voulue. Derrière un établissement à l'aspect anodin se cachait quelqu'un d'intelligent qui ne laissait rien au hasard. C'était le petit restaurant où les jeunes cadres en plein essor conduisaient un client pour marquer un point, ou bien leur patron pour être dans ses bonnes grâces. La nourriture devait être splendide et les portions généreuses. Teg était obligé de constater que son instinct ne l'avait pas trompé en le menant ici. Il se pencha sur le menu, laissant la faim occuper le premier plan de ses pensées conscientes. Il se sentait un appétit au moins aussi féroce que celui qui avait causé la stupéfaction de feu, le maréchal Mustafar. Le serveur apparut à côté de lui avec un plateau où l'on avait placé une petite boîte ouverte et un pot d'où montait l'odeur forte d'un baume novoderme.
« Je vois que vous vous êtes blessé à la main, Bachar, » dit-il en posant le plateau sur la table. « Laissez-moi vous panser avant de prendre la commande. »
Teg lui tendit sa main blessée et le regarda la soigner avec compétence et dextérité.
« Vous me connaissez ? » demanda-t-il.
« Oui, Bachar. Et après tout ce que j'ai entendu dire, ça fait vraiment une drôle d'impression de vous voir en uniforme. Là, ça y est. »
Il avait achevé son pansement.
« Qu'avez-vous entendu dire ? »
interrogea Teg d'une voix plus basse.
« Que vous étiez recherché par les honorés matriarches. »
« Je viens d'en massacrer quelques-unes, ainsi que plusieurs de leurs. Comment doit-on les appeler ?»
Le serveur devint pâle, mais répondit d'une voix ferme.
« Esclave serait le mot le plus approprié, Bachar. »
« Vous n'étiez pas à la bataille de Renditaï ?»«
Oui, Bachar. Beaucoup d'entre nous se sont établis ici par la suite. »«
J'ai besoin de manger, mais je ne peux pas vous payer. » »«
Aucun de ceux qui se trouvaient à Renditaï ne songerait à vous réclamer de l'argent. » « Savent-elles que vous êtes venu par ici ?»«
Je ne le pense pas. »«
Les clients qui sont ici sont des habitués. Aucun ne vous trahirait. Je tâcherai de vous avertir si je vois entrer quelqu'un de dangereux. Que souhaitez-vous manger ?»«
Une grande quantité de nourriture. Je vous laisse le choix. À peu près deux fois plus d'hydrates de carbone que de protéines. Pas d'excitant. »«
Qu'entendez-vous par une grande quantité, Bachar ?»«
Apportez les plats jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. » Ou que vous ayez le sentiment d'avoir outrepassé votre générosité.
Malgré les apparences, Bachar, cet établissement n'est pas pauvre.
J'ai assez travaillé ici pour m'enrichir.
Cela confirmait les déductions de Teg. L'aspect un peu étriqué des lieux était délibéré. Le serveur s'éloigna et s'arrêta de nouveau en chemin pour dire quelques mots au dîneur solitaire de la table centrale. Teg l'observa ouvertement lorsque le serveur regagna les cuisines. Oui, c'était bien celui qu'il cherchait. Il était pour lors tout entier à son assiette garnie d'une montagne de pâtes vertes. De nombreux signes indiquaient, pensa Teg, que cet homme vivait sans femme. Le col était mal boutonné, les attaches à l'envers. Sa manche gauche était maculée de sauce verte. Il était droitier, mais laissait traîner en mangeant sa main gauche sur la nappe tachée. Le revers de son pantalon était élimé et l'un des ourlets, décousu en partie, pendait sur son talon. Ses chaussettes étaient dépareillées, l'une bleue, l'autre jaune paille. Aucun de ces détails ne semblait le préoccuper outre mesure. Jamais sa mère ni une autre femme ne l'avait rattrapé de justesse sur le pas de la porte pour lui intimer l'ordre de se rendre plus présentable avant de sortir. Sa philosophie était contenue dans son aspect physique. « Si vous n'êtes pas content, je m'en fous. »